Inégalité maximale de la propriété, inégalité maximale du revenu. Avant d'analyser de façon plus détaillée la question des origines et de la persistance des inégalités coloniales, il est utile de clarifier le point suivant. Lorsqu'on évoque la question des inégalités extrêmes, il faut distinguer la question de la répartition de la propriété de celle de la répartition des revenus. S'agissant de l'inégalité de la propriété, c'est-à-dire la répartition des biens et actifs de toute nature qu'il est possible de posséder dans le cadre du régime légal en vigueur, il est relativement courant d'observer une concentration extrêmement forte avec la quasi-totalité des patrimoines détenus par les 10% les plus riches, voire par les 1% les plus riches, et une absence quasi-totale de toute propriété parmi les 50% ou même les 90% les plus pauvres. En particulier, nous avons vu dans la première partie de ce livre que les sociétés de propriétaires qui prospéraient en Europe au XIXe siècle et au début du XXe siècle se caractérisaient par une concentration extrême de la propriété. En France, comme au Royaume-Uni ou en Suède, les 10% les plus riches détenaient à la belle époque, 1880-1914, entre 80% et 90% de tout ce qu'il y avait à détenir. Terres, biens immobiliers, actifs professionnels et financiers, nets de dettes. Et les 1% les plus riches possédaient à eux seuls entre 60% et 70% de tout ce qu'il y avait à détenir. Une inégalité extrême de la propriété peut certes poser des problèmes politiques ou idéologiques, mais ne pose aucune difficulté d'un point de vue strictement matériel. Dans l'absolu, on pourrait tout à fait imaginer des sociétés où les 10% ou les 1% les plus riches détiennent 100% des patrimoines. Cela peut même aller encore plus loin, en particulier dans les sociétés esclavagistes, car le patrimoine peut être négatif pour de larges classes de la population. Quand les dettes l'emportent sur les actifs, par exemple dans le cas extrême des esclaves qui doivent la totalité de leur temps de travail à leurs propriétaires, auquel cas les classes propriétaires peuvent se retrouver à détenir plus de 100% du total des biens, puisqu'elles possèdent à la fois les biens et les hommes. L'inégalité de la propriété est avant tout une inégalité de pouvoir dans la société, et elle ne connaît potentiellement aucune limite, pour peu que l'appareil de répression ou de persuasion, suivant les cas, mis en place par les propriétaires, parvienne à faire tenir l'ensemble et à perpétuer cet équilibre. Il en va différemment pour l'inégalité du revenu, c'est-à-dire la répartition du flux de richesses produites au cours d'une année. On ne peut faire autrement que de respecter une contrainte de subsistance pour les plus pauvres, sauf à accepter qu'une partie importante de la population disparaisse à brève échéance. Il est possible de vivre sans posséder, mais non sans se nourrir. Concrètement, dans une société très pauvre, où le niveau de production par habitant correspondrait tout juste au niveau de subsistance, aucune inégalité durable de revenus ne serait possible. Chacun devrait recevoir le même revenu, si bien que la part du décile supérieur dans le revenu total serait égale à 10% et la part du centile supérieur à 1%. À l'inverse, plus la société est riche, plus il devient matériellement possible de soutenir une très forte inégalité des revenus. Par exemple, si la production par habitant est de l'ordre de 100 fois le niveau de subsistance, alors il serait en théorie possible que le centile supérieur s'approprie 99% des richesses produites et que le reste de la population se contente du niveau de subsistance. Plus généralement, il est aisé de montrer que l'inégalité maximale, qu'il est matériellement possible d'atteindre, croît avec le niveau de vie moyen d'une société. Voir graphique 7.6. Cette notion d'inégalité maximale est utile, car elle permet de comprendre pourquoi l'inégalité du revenu ne pourra jamais être aussi extrême que celle de la propriété. En pratique, la part du revenu total reçu par les 50% les plus pauvres est toujours d'au moins 5-10%, et généralement de l'ordre de 10-20%, alors que la part de la propriété détenue par les 50% les plus pauvres peut être quasi nulle, souvent à peine 1-2%, voire négative. De même, la part du revenu total reçu par les 10% les plus riches ne dépasse généralement pas 50-60% dans les sociétés les plus inégalitaires, à l'exception de quelques sociétés esclavagistes et coloniales observées au XVIIIe, XIXe et XXe siècle, où cette part peut monter jusqu'à 70-80%, alors que la part de la propriété détenue par les 10% les plus riches atteint régulièrement 80-90%, en particulier dans les sociétés propriétaristes du XIXe siècle et du début du XXe siècle, et pourrait rapidement retrouver de tels niveaux dans les sociétés néo-propriétaristes en plein essor en ce début du XXIe siècle. Il ne faut toutefois pas exagérer l'importance des déterminants matériels de l'inégalité. Dans la réalité historique, c'est avant tout la capacité idéologique, politique et institutionnelle des sociétés à justifier et à structurer l'inégalité qui détermine le niveau de cette dernière, et non pas le degré de richesse ou de développement en tant que tel. La notion de revenu de subsistance est elle-même plus complexe qu'une simple réalité biologique. Elle dépend des représentations forgées par chaque société, et il s'agit toujours d'une notion multidimensionnelle, nourriture, vêtements, logements, hygiène, etc., qui ne pourra jamais être correctement appréhendée avec un indicateur monétaire unique. À la fin des années 2010, on situe souvent le seuil de subsistance entre 1 et 2 euros par jour, et on définit par exemple la pauvreté extrême au niveau mondial comme le nombre de personnes vivant avec moins de 1 euro par jour. Les estimations disponibles montrent que le revenu national moyen par habitant était inférieur à 100 euros par mois au niveau mondial au XVIIIe siècle et au début du XIXe, contre environ 1000 euros par mois en 2020, les deux montants étant exprimés en euros de 2020. Cela implique qu'une bonne partie de la population n'était à l'époque guère éloignée du seuil de subsistance, ce qui est d'ailleurs confirmé par la très forte mortalité à tous les âges et la faible espérance de vie, mais aussi qu'il existait des marges de manœuvre pour plusieurs régimes inégalitaires possibles. En l'occurrence, à Saint-Domingue, prospère île sucrière et cotonnière, la valeur marchande de la production par habitant était de l'ordre de 2 à 3 fois plus élevée que la moyenne mondiale de l'époque, si bien qu'il était aisé, d'un strict point de vue matériel, d'aboutir à une extraction maximale. On notera d'ailleurs qu'il suffit que le niveau de vie moyen d'une société dépasse environ 4-5 fois le niveau de subsistance pour que l'inégalité maximale puisse, en toute logique, atteindre des niveaux extrêmes de type 80-90% du revenu total pour le décile supérieur ou le centile supérieur. Autrement dit, s'il est effectivement difficile pour une société extrêmement pauvre de développer un régime inégalitaire fortement hiérarchisé, une société n'a pas besoin d'être très riche pour pouvoir atteindre une inégalité très élevée. Concrètement, de très nombreuses sociétés depuis l'Antiquité, sans doute même la plupart, auraient pu choisir d'un strict point de vue matériel d'avoir une inégalité extrême, comparable à celle de Saint-Domingue, et les sociétés riches actuelles pourraient aller encore plus loin, et peut-être certaines le feront-elles à l'avenir. L'inégalité est avant tout déterminée par des considérations idéologiques et politiques, et non par l'effet d'une contrainte économique ou technologique. Si les sociétés esclavagistes et coloniales ont atteint des niveaux d'inégalité exceptionnellement élevés, c'est parce qu'elles ont été construites autour d'un projet politique et idéologique particulier, s'appuyant sur des rapports de force et un système légal et institutionnel spécifique. Il en va de même pour les sociétés de propriétaires, les sociétés trifonctionnelles, les sociétés social-démocrates ou communistes et l'ensemble des sociétés humaines. On notera également que s'il existe dans l'histoire un certain nombre de sociétés s'approchant de l'inégalité maximale du revenu en termes de part du décile supérieur, avec des niveaux autour de 70-80% du revenu total dans les sociétés esclavagistes et coloniales les plus inégalitaires, et autour de 60-70% dans les sociétés actuelles les plus inégalitaires, en particulier au Moyen-Orient et en Afrique du Sud, il en va différemment pour la part du centile supérieur. Les niveaux les plus élevés se situent autour de 20-35% du revenu total, ce qui est certes considérable, mais ce qui reste beaucoup plus faible que les 70-80% des richesses annuelles produites que le centile supérieur pourrait en théorie s'approprier, dès lors que le niveau de vie moyen dépasse 3-4 fois le niveau de subsistance. Sans doute, l'explication tient-elle au fait qu'il n'est pas si simple de bâtir une idéologie et des institutions permettant à un groupe aussi étroit qu'infantile de convaincre le reste de la société de lui céder le contrôle de la quasi-totalité des ressources. Peut-être que des groupes de techno-milliardaires particulièrement imaginatifs y parviendront dans l'avenir, mais aucune élite à ce jour n'y est parvenue. Dans le cas de Saint-Domingue, incarnation dans notre enquête de l'inégalité absolue, on peut estimer que la part du centile supérieur atteignait au minimum 55% des richesses produites, ce qui s'approche sérieusement du maximum théorique. Voir graphique 7.7. Il faut cependant souligner que ce calcul est en partie artificiel, car il repose sur l'inclusion dans les 1% les plus riches des propriétaires résidant principalement en France et qui s'enrichissent grâce aux productions exportées de l'île. Sans doute, une telle stratégie de mise à distance est-elle, en règle générale, une bonne façon de rendre l'inégalité plus aisément soutenable que la cohabitation dans une même société. En l'occurrence, on notera toutefois que cela n'a pas permis d'éviter la révolte et l'expropriation.